Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, une histoire de la sexualité. À toute heure, en tout lieu, le désir les agite, les étreint, déborde de tous leurs sens, ainsi que le vin nouveau ruisselle de la cuve. La légende de Tristan Iseult. D'histoire. À l'origine, disait Platon, les hommes avaient quatre mains, quatre jambes et deux visages, mais pour les punir d'avoir voulu défier les dieux, Zeus les avait coupés en deux. La sexualité, qui vient d'ailleurs du mot latin sécare, qui veut dire couper, ne serait donc rien d'autre, selon Platon, que le désir de retrouver dans son partenaire l'autre moitié de soi-même. Elle était aussi, par la force des choses, le seul moyen de procréation des hommes et des femmes. Bien sûr, ils pouvaient y trouver d'autres agréments et inventer pour cela des quantités de manières de faire l'amour, au risque de transgresser des tabous et de défier à nouveau les dieux qui n'apprécient pas toujours que leurs créatures puissent éprouver du plaisir en assurant la reproduction de l'espèce.
Adam, où es-tu ?
J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu honte parce que je suis nu et je me suis caché.
Tu as donc mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger.
C'est la femme que tu m'as donnée qui m'en a proposé. Et j'en ai mangé.
C'est le serpent qui m'en a offert. J'en ai mangé.
Ève, je multiplierai les souffrances de tes grossesses. Et c'est dans la douleur que tu enfanteras tes fils. Le désir te poussera vers ton mari et il dominera sur toi.
Fabienne Castarosa, bonjour.
Bonjour.
Alors vous venez d'écrire une histoire passionnante de la sexualité qui commence plutôt mal. On vient de l'entendre par l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden parce qu'ils avaient croqué la pomme. Alors, nous verrons d'ailleurs que ce que vous en dites n'est pas forcément conforme à l'idée qu'on se fait du péché originel. Vous tordez d'ailleurs le cou à beaucoup d'idées reçues, dont celle-ci qui veut qu'au fond, l'histoire de la sexualité, c'est une longue histoire qui va d'une période très obscurantiste à la libération sexuelle. Or, il semble en vous lisant que finalement, dans la préhistoire et l'Antiquité, on était en matière de sexualité, on était peut-être moins coincé aujourd'hui, enfin moins coincé hier qu'aujourd'hui.
Au Moyen Âge aussi, on le verra plus tard. Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu cette idée reçue qu'au début était l'oppression et que les hommes ont mis des siècles et des siècles à s'affranchir de ce joug, et que aujourd'hui nous serions enfin à la pointe du progrès, à la pointe de l'histoire, enfin des hommes et des femmes libérés. Mais dans la réalité, c'est bien plus complexe que ça. Il y a des alternances de périodes plutôt permissives et de périodes plutôt permissives. Mais en fait, c'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire que même les périodes dites permissives sont gouvernées par des règles. Et même les périodes dites répressives permettent une certaine forme de liberté.
Alors une période permissive, en tout cas elle a la réputation de l'être, c'est l'Antiquité, l'âge d'or, dites-vous, de la sexualité, avec un point d'interrogation, parce qu'il y a des nuances là-dedans. Enfin, on sait qu'effectivement, c'était une période de très grande libération sexuelle. L'homosexualité était pratiquée largement sans être gênée. On pratiquait même, on tolérait même certains excès. Je pense par exemple au viol. Hein. On sait que Zeus, par exemple, se déguisait pour aller séduire ou pour faire l'amour avec des femmes. Hein. Il s'était déguisé, je crois, en taureau pour enlever Europe.
C'est le grand séducteur. Hein.
Alors si le dieu se permet de violer, évidemment, on pouvait le faire dans l'Antiquité romaine ou grecque, non ?
Oui, alors justement, l'Antiquité gréco-latine, on la présente très souvent comme une espèce d'âge d'or de la sexualité, comme le vert paradis des amours libertines. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'est beaucoup plus complexe que cela. Prenons par exemple le premier exemple que vous avez cité, celui de l'homosexualité. Elle est autorisée, oui, mais dans certaines conditions. Il y a une grande règle qui est la règle de l'actif et du passif. C'est-à-dire qu'elle est autorisée, mais dans la mesure où c'est un homme libre, adulte, qui joue le rôle actif et que c'est un homme, soit esclave, soit jeune, qui est confiné dans le rôle passif. L'inverse est vraiment infamant. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est assez curieux, que dans l'Antiquité gréco-latine, on autorise ce que l'on réprouve aujourd'hui, c'est-à-dire la pédérastie, et on stigmatise ce que l'on autorise aujourd'hui, c'est-à-dire l'homosexualité librement consentie entre adultes. Mmh. Et pour reprendre votre deuxième exemple, l'exemple du viol, qui était assez fréquent et que la littérature aussi exalte à travers donc les viols et toutes les métamorphoses de Zeus qui se transforme en taureau pour rapter Europe, qui va se transformer en cygne pour violer l'Eda ou même en pluie d'or pour faire un enfant à Danaï qui va être percé. Il y a une exaltation de ce viol-là qui en fait est une exaltation du pouvoir masculin et on se pose absolument pas la question de la réaction de la femme, du traumatisme que ça peut provoquer chez la femme. Moi, en tant que femme, ça m'a vraiment frappée.
Alors, il y a des nuances, hein. Il faut rappeler quand même que certains philosophes, comme Platon, préféraient l'union des âmes à celle du corps. C'est ce qu'on appelait l'amour platonique. Donc, c'était pas une sexualité débridée, hein, contrairement à ce qu'on croit.
Oui, oui. En fait, les anciens étaient vraiment très attachés à la virilité. Donc, un homme libre et adulte devait être actif et également à la tempérance. Ils disaient vraiment qu'il fallait rester maître de soi, se méfier des passions. Platon disait que la passion était le cachot de l'âme.
En tout cas, on ne connaissait pas encore tous les tabous que les religions vont introduire dans la sexualité, encore que dans ce domaine, on se fait aussi des idées. Hein. Le judaïsme, par exemple, on va vous lire, ne condamne pas les rapports sexuels. Par exemple, le fruit défendu, contrairement à une idée reçue, l'extrait de film qu'on a dit tout à l'heure, le fruit défendu, c'est pas la sexualité, c'est la connaissance, c'est ce que dit la Bible d'ailleurs.
Et oui, en fait, dans le paradis, il y a deux arbres, il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Et le fruit, donc... qu'Ève croque et qu'elle donne ensuite à Adam, c'est le fruit de la connaissance. Et à partir du moment où il y a la connaissance, il y a la connaissance, entre autres, de la sexualité, de la nudité, de tout ce que cela implique.
Alors dans la Bible aussi, dans l'Ancien Testament, dans la Torah des Juifs, il y a même des textes qui exaltent la sexualité. Vous citez par exemple le Cantique des Cantiques, c'est magnifique. « Que tu es belle, ma tendre amie, que tu es belle, tes yeux ont le charme des colombes, le bas de ton ventre est une coupe ronde, où le vin parfumé ne devrait pas manquer, ton ventre est un tas de blé entouré d'anémones. » C'est extraordinaire ça dans la Bible.
Ah mais c'est un érotisme incroyable et également beaucoup d'histoires d'amour. Dans la Bible, je pense à... David et Bethsabée, à Jacob et Rachel, à Judith et Holoferne, enfin c'est l'Ancien Testament est constellé d'histoires de coups de foudre et d'amour passionnel.
Alors on mange pas le Nouveau Testament, hein, les chrétiens sont moins tolérants en matière de sexualité. Cela dit, vous le dites, c'est plutôt pour défendre la femme que par exemple au Moyen-Âge, le christianisme interdit la polygamie, interdit la répudiation des femmes.
Oui, effectivement, on a tendance à penser, et c'est vrai en grande partie, que l'Église a condamné la chair et a été également très misogyne, mais on peut tempérer vraiment ça, puisque tout au long du Moyen-Âge, effectivement, l'Église a beaucoup œuvré pour imposer la monogamie au détriment de la polygamie et de la répudiation et du rapt, qui étaient des pratiques très violentes pour les femmes. Il faut savoir aussi que l'Église... avait adopté les théories de Galien, qui est un médecin grec, selon lequel en fait le sexe de la femme était l'équivalent du sexe de l'homme, mais à l'intérieur du corps. C'est-à-dire dans cette représentation, c'est assez curieux et surprenant pour nous. Le vagin en fait était l'équivalent de, excusez-moi, je parle un peu crûment, mais bon, autant dire les choses comme elles sont.
C'est pas
vagin était l'équivalent du pénis, les ovaires des testicules, et la femme comme l'homme pour procréer, enfin au moment de pour procréer, devait émettre une semence qui seule permettait la fécondation. Et comme donc l'Église croyait en cela, elle défendait aussi le droit au plaisir pour la femme.
Alors reste la dernière religion du livre, Fabienne Castarosa, l'islam, qui est en revanche beaucoup plus tolérant en matière de sexualité. C'est même en pays musulman qu'est né le premier livre érotique, je pense, de l'histoire, 6001 nuits, pendant lesquelles Scheherazade racontait des histoires salaces à un sultan qui avait la fâcheuse habitude de tuer toutes les femmes qui passaient dans son lit.
Il fait jour, regardez.
Alors, vous ne voulez pas continuer ?
Si, mais les histoires se racontent mieux la nuit, Altesse.
Je te parle, mon roi, pour que tu me tues pas. Les yeux de tout mon lycée.
dis-moi comment ça s'appelle.
Ça s'appelle l'herbe odorante des champs. Dis-moi, et ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la grenade tendue. Alors dis-moi, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle l'auberge du bon accueil.
Ah oui, alors comment s'appelle ceci? Ça s'appelle le poulain qui broute l'herbe odorante des champs, qui mange la grenade fondue et qui passe la nuit dans l'auberge du bon accueil.
Et c'est Safo que vous entendez, cette belle chanson invoquant les mille et une nuits. On a entendu aussi un passage du film de Pasolini. On a du mal à imaginer, Fabienne Castarosa, que l'islam, ce soit à la fois le voile imposé par les intégristes et les mille et une nuits.
C'est-à-dire que c'est un durcissement aujourd'hui d'une certaine forme de puritanisme ou de méfiance à la sexualité qui était là dès l'origine. Mais il faut bien se rappeler que vraiment nulle autre religion que l'islam n'a autant exalté, sublimé la sexualité. Tout l'art de vivre musulman fait une large place aux soieries, aux parfums, aux hammams, aux aphrodisiaques, à littérature érotique. Je pense donc aux mille et une nuits, mais aussi à un célèbre ouvrage qui s'appelle Le Jardin parfumé. Et puis, par ailleurs, il faut bien voir que, contrairement au paradis des chrétiens, qui est un paradis fait de nuages sur lesquels les mambades des petits anges asexués, le paradis des musulmans est érotique à l'extrême. Il faut enfin imaginer une oasis absolument somptueuse, luxuriante, avec une herbe grasse, des arbres,
et surtout les
fameuses houris, 70 par croyant, qui tombent du ciel et qui sont des êtres magnifiques, éternellement vierges, avec des grands yeux noirs, enfin le paradis.
Et puis le prophète lui-même qui était capable, disait ton d'honorer 9 épouses en la même nuit. Alors c'est par l'islam d'ailleurs que, au fond, l'Occident médiéval a un peu redécouvert la sexualité. C'est par les troubadours. Tout ça est venu par l'Espagne andalouse, c'est-à-dire musulmane.
Oui, exactement. Les poètes donc d'Espagne andalouse ont migré en fait dans le pays d'Oc, et de là ils ont diffusé donc les théories de l'amour courtois, la poésie courtoise dans tout l'Occident médiéval et jusqu'à aujourd'hui.
Et dans un Moyen-Âge qui était particulièrement répressif en matière de sexe, très violent aussi, c'est une période de très grande violence sur le plan sexuel, Fabienne Castarosa.
Ah notamment au moment des grandes invasions, il faut imaginer des hordes de barbares qui défilent, qui volent, qui pille, qui viole tout ce qui porte jupon. Oui, c'est extrêmement violent.
Et alors bon, c'est aussi violent dans les habitudes. Il y a par exemple Abélard qui se fait castrer, on sait, par le chanoine Fulbert, parce que à cause de son amour pour Héloïse.
Ah oui, on n'y allait pas par quatre chemins. Hein. C'était une violence sexuelle effectivement qui s'exerçait avant tout contre les femmes, mais qui pouvait également s'exercer contre les hommes. Et Abélard en a fait les frais.
Et contre les femmes parce que c'était elles, selon les idées de l'époque, qui étaient responsables de toutes les turpitudes, avec une seule excuse, le fait qu'elles soient possédées par cette invention du Moyen Âge, inexistant au début du christianisme. Le démon dont il fallait exorciser les sorcières.
Dragon pervers, au nom de l'agneau immaculé qui écrasa le lion et le dragon, sors immédiatement de cette femme.
Qu'est-ce que c'est, dites-moi?
J'ai trouvé un ventricule
qui provient du cœur d'un enfant
sacrifié à l'occasion d'un sabbat de sorcière.
Oh, une hostie consacrée.
Et du sang épais qui ne peut venir que d'un homme.
Cette substance précieuse, c'est bien de la semence.
Et ça, qu'est-ce que c'est?
C'est une carotte.
Au nom de notre Père qui est dans les cieux, je te conjure, monstre exécrable et abhorré, par la vertu de cette sainte substance, de fuir mon ici.
Les sorcières qui, à partir du Moyen-Âge, jusque très tard d'ailleurs, dans les temps modernes, seront brûlées parce que c'était elles, au fond, qui étaient responsables d'une sexualité débridée.
Et les femmes ont toujours fait peur aux hommes parce qu'elles sont, de par leur vocation maternelle, beaucoup plus proches de la vie et de la mort, et aussi parce qu'elles sont plus proche de la sexualité au sens où, comment dire, contrairement aux hommes, leur sexualité n'est pas limitée par des contraintes physiques, vous voyez. Une femme peut avoir des orgasmes en série, quoi, alors que l'homme, non. Et donc, on a souvent, même déjà sous l'Antiquité, prêté aux femmes une espèce de sensualité insatiable, avide. Et au Moyen-Âge, on les présente comme des femmes tentatrices, lascives.
Et on leur met même, dites-vous, des ceintures de chasteté quand les chevaliers partent en croisade. En fait, fait, vous dites qu'en réalité, c'est peut-être plus une légende qu'une réalité, les ceintures de chasteté.
Oui, en fait, dans les textes du Moyen-Âge, il s'agit souvent de discours, enfin même tout le temps, de discours symboliques. C'est-à-dire qu'on parle de la fidélité à l'être aimé. Le corps doit se fermer à celui qui n'est pas l'être aimé. Seul lui a la clé du cœur et du corps de l'autre. Mais à partir de là, on a imaginé que c'était réel. On a même fabriqué des faux. Je pense à Prosper Mérimée, qui était inspecteur donc des monuments historiques et qui a joué une sacrée farce au musée de Cluny en offrant au musée de Cluny un faux.
En tout cas, l'Église, par la confession, s'introduit, si je puis dire, dans les alcôves. Elle codifie l'amour dans les moindres détails, en prévoyant d'ailleurs des peines proportionnelles à la gravité de ce qu'elle considérait comme des péchés. Je cite d'ailleurs des textes que vous citez vous-même dans votre livre, le décret de Burckhardt de Worms. « As-tu bu le sperme de ton mari afin qu'il t'aime davantage grâce à tes agissements diaboliques ? Si oui, 7 ans de pénitence au pain et à l'eau. » Ou encore, as-tu commis la sodomie ou la bestialité avec des hommes ou des animaux, à savoir une vache, une ânesse ou un tout autre animal ? Si oui, tu jeûneras 100 jours au pain et à l'eau. Et en plus, il était pratiquement interdit de faire l'amour 5 jours par semaine. C'était en tout cas ce que recommandait l'Église.
Si on suivait le calendrier chrétien, c'était terrible. On ne pouvait pas faire l'amour le jeudi parce que c'était le jour de l'arrestation du Christ, pas le vendredi parce que c'était le jour de sa mort, pas le samedi en l'honneur de la Vierge, pas le dimanche en l'honneur de la mort du Christ, je sais plus encore, enfin, sans compter qu'il fallait pas faire l'amour 40 jours avant Pâques, 40 jours avant la Pentecôte, 40 jours avant Noël, donc, c'était la chasteté absolue, pratiquement.
Alors, ça n'a pas empêché le Moyen-Âge, et au début de la Renaissance, d'ailleurs, de chanter l'amour, et même avec des textes plutôt gaillards, comme celui-ci, c'était à l'époque de Rabelais. Voilà une belle chanson de la fin du Moyen-Âge ou du début de la Renaissance. Alors on dirait comme ça, parce qu'on n'entend pas bien les paroles, qu'il s'agit d'une chanson religieuse. Pas du tout, écoutez les paroles. Ramenez-moi ma cheminée, ramenez-moi ma cheminée, ramenez-la moi haut et bas. Ramenez-moi ma cheminée, disait de chaleur forcenée, c'est-à-dire rendue folle par la chaleur. Enfin, beaucoup. C'est extraordinaire ces textes, en même temps que le Moyen-Âge ou le début de la Renaissance reste une période très répressive en matière de sexualité. Fabienne Castarosa, c'est une période où le langage se libère, si je puis dire.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a une théorie ascétique qui se développe, enfin une théologie ascétique qui se développe, mais qui reste encore en surface. Ça n'a pas vraiment marqué les esprits. Dans les fêtes, il y a une très très grande verdeur, une très grande gauloiserie dont justement les chansons et les fabliaux rendent compte. C'est il faut lire ça, quoi. C'est savoureux.
Mais où est l'amour dans tout ça ?
L'amour, il est alors pas trop dans les couples réels, mais beaucoup plus dans la littérature, dans l'amour courtois, bien sûr, et puis aussi dans le célèbre mythe de Tristan et Iseut, donc qui naît à cette époque, et qui marque vraiment le début de la mystique, de la passion, du couple indestructible, de la fidélité dans la vie et au-delà de la mort. Et ça nous a marqué jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle plus de mystique de la passion, mais on parle de la recherche du grand amour, et vraiment, il vient de là.
Et c'est du Moyen-Âge. Parce qu'on a l'impression, c'est vrai qu'avant, on en évoquait la sexualité en la dissociant complètement de l'amour, limité simplement au seul rapport sexuel. Là, au Moyen-Âge, on mélange les deux, en définitive.
Mais en fait, l'amour a toujours existé, je pense, mais il a été plus ou moins valorisé, si vous voulez. Ça devient vraiment une valeur culturelle forte, un mythe.
Alors, pour ce qui concerne la sexualité, le début de la Renaissance, c'est l'apparition d'un certain nombre de dessins, par exemple ceux de l'Arétin, qui sont vraiment des dessins érotiques, pour ne pas dire pornographiques, et en même temps...
C'est Kamasutra, italien. Voilà, hein, ouais.
Et il reste quand même une répression assez forte. Par exemple, dans le domaine de l'art, on interdit à Michel-Ange de peindre des nus sur les plafonds de la Sixtine.
On lui a pas interdit, il les a peints, mais c'était d'une telle sensualité, enfin tous ces muscles nus, torsadé, gonflé, était tellement indécent aux yeux du pape qu'il a demandé à un autre peintre, qui s'appelait Daniela da Volterra, de les rhabiller. Et comme c'était un geste malheureux et qu'en plus le peintre était médiocre, on lui a donné le surnom assez ridicule de braguettone, ce qui veut dire le culottier.
La même chose, c'était la braguette.
C'est un peu pareil.
Alors c'était vraiment de la pudeur poussée aux extrêmes. On continue aussi jusqu'au début de la Renaissance et même au-delà, par exemple, à traquer l'adultère, les homosexuels qu'on appelle les bougres.
Oui, alors les bougres s'ils sont pauvres. Parce que quand on est riche et puis impuissant, on va parler du non pas de bougrerie, mais du beau vice.
Ah oui.
Donc il y a vraiment, vous voyez, deux poids, deux mesures.
Alors on est en revanche, on ne tolère pas les bougres, c'est-à-dire les homosexuels hommes. En revanche, on est plus tolérant avec l'homosexualité féminine, celle qu'on appelle, je crois, les frotteuses.
Oui, alors on les appelle les frotteuses ou les fricatrices ou les tribades. Et tout ça, ça vient donc du grec et du latin, frotter. Parce que, bon, c'est pas une évidence. Les hommes pensaient que les lesbiennes n'avaient d'autres possibilités érotiques que de se frotter entre elles, faute de nourriture plus solide, on va dire. Mais comme elles-mêmes n'en parlaient très peu, comme aux yeux de l'Église, il n'y avait pas de péché, puisqu'il n'y avait pas de perte de semences, comme par ailleurs les hommes était à la fois très vexée qu'elle puisse se passer d'elle, mais en même temps minimisait le mal en se disant qu'elle faisait ça à faute de mieux. On s'en préoccupait pas trop et donc elles n'ont pas été poursuivies.
Vous parlez de l'Église. Il faut rappeler qu'il y en a deux à ce moment-là qui apparaissent. Enfin, il y en a une autre. Il y a la scission, il y a la réforme. Et avec la réforme, et du coup la contre-réforme d'une Église qui veut véritablement essayer une espèce de surenchère dans la répression sexuelle, avec la réforme, la répression devient plus grande. Fabienne Castarosa.
Oui, c'est vraiment le début de la répression sexuelle en Occident. Il y a, enfin, vous l'avez dit vous-même, une surenchère entre l'Église catholique et l'Église protestante. C'est à celui qui sera le plus vertueux, le plus chaste et effectivement quoi, c'est commence vraiment l'ère des sermons, l'ère de la pénitence, l'ère de la culpabilisation, on craint les tourments de l'enfer. Bref, c'est vraiment le triomphe de la chair, mais non pas C-H-A-I-R, mais C-H-A-I-R-E.
Quand un homme se laisse emporter par l'ambition, il pêche, mais il pêche en ange. Parce que l'ambition est un péché spirituel. Quand il s'abandonne au désordre de la chair, il pêche, et il pêche en bête. Parce qu'il suit les mouvements infâmes d'une passion qui lui est commune avec les bêtes. Le péché d'impureté est la source de tous les désordres qui naissent dans le monde. Traitez vos sens comme des esclaves. Fortifiez tous les membres de votre corps, et par ce moyen, ayant déraciné le péché dans votre âme, vous y ferez accéder la grâce en cette vie qui vous procurera la gloire dans l'autre.
Et c'était, on l'a reconnu, Daniel Nesgui, je crois, dans un sermon de Bossuet. Alors ça, c'est vraiment, effectivement, la répression qui existe à l'époque. Et en même temps, on est très tolérant avec les grands de ce monde. Il y a la sexualité des pauvres et celle des grands. Henri III avec ses mignons, Henri IV avec ses maîtresses. Les frasques du pape, aussi d'un pape, Alexandre VI Borgia. C'est vraiment, il y a deux sexualités. Hein. On tolère n'importe de quoi chez les puissants et rien du tout chez les pauvres.
Oui, il y a deux sexualités, il y a deux poids, deux mesures, dont je prendrai un seul exemple. Monsieur, donc, qui est le frère de Louis XIV, est un homosexuel notoire. Il est parfumé, fardé, il porte des talons hauts, il se pavane à la cour en toute liberté. Évidemment, il ne craint rien. En revanche, les bougres à la même époque, en France, étaient brûlés vifs. En Hollande, ils étaient cousus dans des sacs et jetés à la rivière. Et en Angleterre, ils étaient cloués au pilori, où ils recevaient sur la tête des têtes de poissons pourris, ou des chats crevés, ou des bâtons. Donc vous voyez, on ne peut pas parler d'égalité. Mais justement,
pas plus qu'il y en a d'ailleurs entre les hommes et les femmes. Il y a la sexualité qu'on tolère chez les hommes et pas chez les femmes.
Oui, mais ça a toujours été. En fait, ça a toujours été dans la mesure où les femmes sont destinées à mettre au monde une descendance. Les hommes les surveillent de très très près parce qu'ils voudraient surtout pas qu'elles mettent au monde un bâtard et que eux doivent élever cet enfant bâtard. Donc effectivement, elles ont toujours été en liberté très surveillées.
On voit d'un mauvais œil les maîtresses de Louis XIV, mais on comprend très bien que Louis XIV en est beaucoup, y compris d'ailleurs la dernière, avec laquelle le règne de Louis XIV, du Roi Soleil, va véritablement devenir une période très sombre en matière sexuelle, mais qui va précéder, qui va annoncer les débordements des libertins au début du XVIIIe siècle, dont nous parlerons demain avec vous, Fabienne Castarosa, dans la deuxième partie de cette émission sur l'histoire de la sexualité. Je rappelle donc Fabienne Castarosa, qui était mon invitée, l'auteur d'une passionnante histoire de la sexualité en Occident, publiée aux éditions de La Martinière, ainsi que d'une histoire du flirt, qui a été publiée il y a 4 ans, je crois, chez Grasset. C'est ça, Fabienne Castarosa. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Bible de John Huston, Les Mille et Une Nuits de Pasolini, Les Diables de Ken Russell et L'Allée du Roi de Nina Companese. Vous pouvez retrouver ces références en contactant les services des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, une réalisation de Anne Kobilac.